Chapitre 6. Ils s'étaient mariés, non au jour fixé d'août, mais à cause d'empêchements imprévus, le 20 septembre seulement. Le petit Paris n'ouvrirait sa porte qu'en octobre. Dans toute la ville, on ne parlait que de cette fameuse inauguration. La maison étalée sur le carreau de la halle, la blancheur de ses trois étages, si éclatante entre les maisons basses qui, dans leur vétusté, paraissaient plus noires. Au-dessus du premier étage resplendissait en énormes lettres dorées l'enseigne « Au Petit Paris ». Courtès, Pouget, les gens du voisinage, plus ahuris qu'au début de la construction, souffraient d'un incurable malaise. Des badauds gênaient parfois la circulation, empêchaient l'un des boutiquiers de somnoler sur une chaise ou l'autre de lire son journal. Quant à M. Fornet, il ne s'aventurait guère jusque sur le carreau, de crainte qu'à son air de mépris, la Griffoule, qui était plus jeune, ne lui ripostât vertement. On se serait battu, et Fornet n'était pas sûr que ses voisins lui vinssent en aide. Ce qui l'exaspérait le plus, c'était que la Griffoule affectait de ne pas l'apercevoir, ni même de penser à lui. On n'appelait plus que rarement par son prénom d'Isidore, le patron du Petit Paris. Tout allait à merveille dans le suprême effort de l'installation au Petit Paris. Les ouvriers mettaient de l'amour-propre à presser l'ouvrage et à le fignoler, quelques-uns en artistes. La Griffoule les encourageait par des cadeaux de cigares, des invitations au café. De sorte qu'à son insu, il flattait la classe populaire, la meilleure clientèle, celle qui paie comptant et qui, sans trop de risques, satisfait ses caprices. Enfin, on travailla d'un tel élan que le magasin se trouva prêt avant le 1er octobre. Un matin, la Griffoule décida sa femme à monter avec lui tout en haut de la maison, dans son atelier, qu'il avait rempli de meubles anciens, décorés de tentures, tapissés d'images. Il voulait à tout prix retoucher le portrait qu'il n'avait qu'ébauché au grand jour. « Allons, ma belle Hélène, » fit-il en riant, « assieds-toi là, dans ce fauteuil, et ne bouge plus. » « Non, je t'en prie, occupons-nous de choses sérieuses. »« C'est très sérieux, la peinture. »« Non, non. »« Si, mamie, j'en vendrai comme des mouchoirs et des caracos. »« D'ailleurs, il est midi. » Juste, la grosse cloche de l'horloge municipale sonna dans le clocher, au-dessus d'eux, les 12 coups de bronze. Puis ce fut la cloche de l'Angélus, boum, boum. Un bruit formidable qui, par bonds réguliers, ricochait sur le toit. Dans l'après-midi, la Griffoule ne pensait plus à sa peinture. 4 jours après, au Petit Paris ouvrit sa porte. Depuis l'aurore, les tambours battaient par les divers quartiers du Sclas, les fifres sifflaient comme pour la farandole en carnaval. Au rez-de-chaussée du magasin, une commise se tenait prête à servir sous la direction du patron, et la vitrine exposait une riche variété de marchandises, draps et lainages. À droite de l'entrée, la caissière, derrière son grillage, rangeait dans son tiroir des billets et de la menu-monnaie. Au premier, sous la direction d'Hélène, une commise, également jeune et jolie, ordonnait sur des étagères les paquets de lingerie fine. À 8 heures précises, la porte s'ouvrit. Moment solennel. Une véritable foule s'engouffra dans le magasin. Il fallut modérer le flot. Dans ce pays du Languedoc, on n'est pas avare, au contraire, on y aime la vie, la jouissance, tout ce qui brille et qui chante. Les vendanges, cette année, assuraient à presque tous une fortune. Aussi, chacun désirait le linge le plus beau et même, par gloriole, achetait plus cher que son voisin. Les ventes allaient rondement et, chose extraordinaire, sans marchandage. Tant de succès éblouissait Hélène. Son Isidore ne s'était donc pas trompé dans ses prédictions. À midi, la Griffoule, se flattant d'imposer à la population un nouvel usage, ferma son magasin jusqu'à 2 heures. Ainsi, on pourrait déjeuner à son aise. Comme le ménage n'était pas organisé, ils s'en allèrent, de même que les autres jours, s'asseoir à la table des charmaçons. Seulement, on n'avait pas de temps à perdre. « Allons, maman, un peu de zèle !» s'écriait la Griffoule. « Ah, quel succès! Je parie qu'Hélène n'y croyait pas !»« Ma foi, c'est presque vrai !»« Moi non plus, » déclara le vieux libraire. « Surtout, ne vendons pas la peau de l'ours !»« Oh, vous, beau-père, votre fille vous ressemble, raisonnable, craintive, traditionnelle. Mais que diable! Nous voulons du nouveau !» Pas de discours, fils, on verra plus tard. » Après le repas, la Griffoul, en savourant son café, consultait sa montre à chaque instant. À 2 heures sonnantes, il rouvrait son magasin. Même foule empressée, rieuse, jusqu'au soir. À 7 heures, fermeture complète, sans rémission. Les clients qu'on avait pu satisfaire promirent sans rancune de revenir le lendemain. Ensuite, après souper, ce fut une illumination magnifique qu'on accourut de partout admirer, comme dans la nuit du 14 juillet, on va voir les lampions de la mairie, du théâtre et du collège. Cependant, les voisins du Petit Paris étaient ennuyés de tant de lumière et de tant de bruit. Eux qui depuis toujours se promenaient seuls sous la halle, dans le voile reposant de l'ombre, à présent, la splendeur aveuglante de ce magasin les poursuivait sans répit. Pliés dans leurs longs burnous à capuchon, ils n'avaient plus de verre dans leur bavardage, ils maugréaient contre ce tas de badauds qui ferait mieux d'aller au lit se coucher. Monsieur Fornet, lui, ne cachait pas son indignation. « Voilà que chez nous, la nuit n'est plus la même. Encore, si toutes ces balivernes signifiaient quelque chose. Mais la Griffoul ne vendra pas une pelote de plus. » « Ne dis rien, mon ami, » répondit tout bas le grand Courtès. « Autrement, il serait capable d'inventer pire. » « C'est impossible. Tais, je m'en vais. » Et frappant de sa canne le pavé poisseux, M. Fornet traversait le carreau, lorsque soudain, il frôla la Griffoul qui l'interpella sans façon. « Ne soyez donc pas en colère, M. Fornet, c'est inutile. »« Tu étais là, toi. À cause de tes illuminations, je ne te voyais pas. Ah, tu fais du propre, tu te ruineras. »« Tant mieux pour vous, puisque vous aurez mon magasin à bon compte. » « Ton caravansérail, je n'en veux pas. Vous préférez votre caverne. Une caverne où j'ai gagné une fortune, nigaud. Et puis, ne m'insulte pas. » Tandis que M. Fornet s'éloignait, la tête dans son capuchon, des badauds, pour s'amuser ou pour flatter le patron du Petit Paris, lui lancèrent des quolibets. « T'es, M. Fornet, qui est de la vieille classe. Nous voulons le progrès, nous autres. » Ce pauvre Fornet aimait tant les petites douceurs de l'existence, et maintenant il n'en avait pas fini avec ses tracas. Sa clientèle, qui connaissait depuis toujours ses manies, les respectait docilement. Ainsi, la matinée de chaque jour, il la consacrait tout entière à la vente, auprès de sa femme, de sa longue et sèche Brigitte, qui était, hiver comme été, habillée de la même robe de deuil. À midi, il dînait au premier étage, et personne n'osait alors les déranger. Ensuite, jusqu'à 3 heures, tandis que Brigitte vaquait à son ménage, M. Fornet, dans la tiède pénombre de sa boutique, se reposait au creux de sa chaise, dans un coin, à droite de la porte, un mouchoir sur la figure à cause des mouches. Or, une de ces après-midi d'octobre, il sommeillait bouche bée, son chapeau tyrolien chu à ses pieds, lorsque la porte lentement s'ouvrit et « tirititi !» La vieille clochette retentit une longue minute de sa musique stridente qui se répercuta par les alentours jusqu'à la place. M. Fornet sursauta dans le brouillard du sommeil. « Qu'est-ce qu'il y a donc » bredouilla-t-il avec effroi. Il vit devant lui un gamin d'une douzaine d'années qu'avait intimidé la stupeur du bonhomme. « Qu'est-ce que tu veux? Qui t'a permis d'entrer ?»« Monsieur Fornet, je veux 10 sous de caoutchouc pour une balle. » « Et pour 10 sous, tu me déranges? Tu ne sais pas que je fais la sieste jusqu'à 3 heures ?»« Si, monsieur, seulement je croyais que vous aviez tout changé depuis le Petit Paris. »« Je m'en fiche, moi, du Petit Paris. Il faut le détester quand on a de l'éducation. Ce Lagrifoule est un fou, un impoli, tu entends ?»« Oui, monsieur, mais je suis pressé pour le collège. » Le gamin tendait sa pièce de 10 sous. Monsieur Fornet le rabroua. « T'es, puisque tu ne m'écoutes pas, file, tu n'auras pas ton caoutchouc. » Il frappait des pieds, tourmentait sur sa tête le chapeau tyrolien en un si menaçant désordre que le gamin, pris de peur, décampa bien vite. Fornet se rétablit au creux de sa chaise, dont le dossier se renversait contre le mur, et, le mouchoir sur la figure, il croisa les bras. À peine se rendormait-il que de nouveau la clochette retentit. Fornet, en tremblant de tous ses membres, se redressa, et il vit auprès de lui une bonne, jeunette, simple, qui tremblait aussi. « Qu'est-ce que tu veux, toi ?»«
Une bobine de fil blanc, monsieur. »«
Tu viens me réveiller pour 20 sous et tu ne sais pas que les boutiquiers honnêtes font la sieste et tu n'as rien à faire dans ta maison ?»«
Pour le moment, non, monsieur. Il me faut une bobine de fil blanc. » »«
Oui, je comprends. Qui t'a dit de venir ici ?»«
Le petit Paris. Il m'a dit qu'il ne vend pas qu'une seule bobine. »
Pardi, il est si riche. Eh bien, va-t'en lui dire qu'il est un insolent. Non, tais, j'y vais moi-même. »
Poussant dehors la bonne si naïve, M. Fornet longea d'un pas rapide les boutiques aux auvents à demi-clos. Puis, d'un élan, il pénétra dans le petit Paris, dont le luxe le troubla une seconde.
« Votre patron, demanda-t-il à la vendeuse, que je lui parle.
Il est là-haut, monsieur. »
Mais la voix aigre de M. Fornet était parvenue au premier étage et la griffoule descendait avec empressement.
« Ah ça, dis-moi, de qui te moques-tu ? Oui, tu m'envoies des imbéciles pour m'empêcher de faire la sieste. »«
Moi ?
C'est lâche, grossier. »«
Ah, pardon, en voilà assez. Vous venez t'empêter chez moi sans motif. Je vous prie de passer la porte. »«
Moi ? Un homme comme moi ? »
Vous cherchez par le scandale à me nuire. Regardez tout ce monde, déjà. »
En effet, s'ameutait déjà, devant la porte du Petit Paris, un tas de curieux, narquois, des balayeurs de la halle, un facteur du télégraphe, des ménagères allant à leurs emplettes, quelques fainéants qui rôdent toujours par-ci par-là en quête de distraction.
Tant mieux, répliqua Fornet. Tout le monde se rendra compte enfin du désordre que tu apportes dans le quartier. Si, vis-à-vis de moi, tu recommences tes impolitesses, je préviens la police.
Vous n'avez qu'à dormir toute la nuit et tout s'arrangera.
Suffit, mon garçon. »
Et Fornet, en épongeant la sueur de son front, sortit du magasin précipitamment. Les curieux, d'un remous, s'écartèrent. Les uns, par flagornerie, lui donnaient raison, les autres raillaient à l'envi ce vieux déguisé de 1830. Pouget et Courtès, que le tumulte avait réveillés sur leurs chaises à l'abri de leurs auvents, se tenaient ensemble dans un ruban d'ombre contre le mur. Ils saisirent l'ami Fornet au passage et, pour ne pas trop se compromettre à l'égard de la griffoule, ils l'attirèrent derrière l'épicerie Pouget, dans l'ample encoignure d'où s'élève la haute muraille de l'église.
« Est-ce vrai que nous ne pourrons plus faire la sieste ?»«
Il paraît, c'est maintenant la griffoule qui commande. Avouez que vous avez des torts. Au lieu de rompre avec un tel personnage, vous lui prodiguez vos indulgences. Et nous sommes six voisins. D'ailleurs, comment le contraindre au respect de nos usages ?
Il n'y a qu'à le mettre en quarantaine. Je m'étonne que sa femme, une demoiselle Charmasson, ne lui apprenne pas les bonnes manières. »
À l'instant même, débouchée de la rue Saint-Jean, Hélène revenant de chez la maman Lagrifoule qui avait eu un malaise. Fine, attentive, elle comprit que les trois voisins, groupés dans l'ombre de l'église, chuchotaient quelques complots. Elle attrapa au vol les derniers mots que M. Fornet avait malgré lui lancés à haute voix. Soudain, elle s'arrêta, non sans courage et en souriant, car elle ne tâchait toujours, par intérêt autant que par bienveillance, qu'à concilier les choses.
« Je crois, messieurs, que vous parlez de mon mari, » dit-elle.
Pouget nettoya les verres de son lorgnon. Courtès rejeta du pied des feuilles de salade que les balayeurs avaient oubliées. M. Fornet emprunta un air sucré et, appuyant sa petite main sur le bras de la jolie Hélène,
« Je ne veux pas vous chagriner, mon enfant, mais oui, nous parlions de votre mari. Il n'a pour moi, qui pourrait être son père, aucune déférence. »
« Par exemple ?»«
Oui, il a envoyé chez moi deux imbéciles pour m'empêcher de faire la sieste. »
« En êtes-vous sûr ? On l'accuse de tant de méfaits. »
« J'en suis tellement sûr que je viens de lui adresser des reproches et, ma foi, sans ménagement. À part ça, je ne demande pas mieux que de vivre bons amis. »
« Sans doute. Je vous promets que ces malentendus ne se renouvelleront pas. »
« Avec vous, on peut s'entendre. Faites-lui la leçon. »
Hélène salua d'une gentille révérence M. Fornet, un peu fier, et ses camarades qui ôtèrent leurs chapeaux jusqu'au pavé. Sur le carreau de la halle, il n'y avait plus de curieux. Au Petit Paris, plus de clients. Hélène marcha droit vers son mari, qui, dans un coin du magasin, sorte de retraite aux trois quarts enveloppée par les colonnes de carton, avait installé un bureau où il était en train de vérifier les factures.
Ta mère va mieux, la Griffoule. Mais dis-moi, que s'est-il passé tout à l'heure avec Fornet ?
Rien du tout.
Tu as tort de lui envoyer des clients à l'heure où il sommeille.
Ma foi, c'est sans le vouloir.
Le brave homme est âgé. Ne le taquine plus.
La Griffoule eut un frémissement d'impatience. Il s'agita sur sa chaise, leva ses bras courts en criant de sa voix de pigrièche.
Est-ce pour ce vieux rococo que je dois subir tes remontrances ? Je sais me conduire en homme courtois.
Non, tu n'es pas poli.
En tout cas, il n'a encore rien vu. Au carnaval ?
Qu'inventeras-tu, mon Dieu ?
Je ne te le dirai pas, c'est un secret.
Ne dépense pas l'argent en pure perte. Crois-tu que nous en ayons un puits ?
L'argent est à moi.
Oh, quelle vilaine parole ! Alors, je ne suis rien, moi ?
Si, tu es une épouse intelligente, dévouée. Je reconnais tes mérites. Seulement, l'argent est à moi. J'en fais ce que je veux.
Elle s'appuya des deux mains sur le bureau et regarda la Griffoule fixement avec une moue de mépris qui le fit rougir jusqu'à la racine des cheveux.
« Tu m'insultes dans ma pauvreté, » gronda-t-elle. « Tu n'es qu'un lâche. »
« Pas de grands mots, Hélène. »«
Ce n'est pas moi qui suis allée te chercher. »
« Mais n'importe, que deviendras-tu quand tu n'auras plus d'argent ?»«
J'en aurai toujours, le magasin prospère à merveille. »«
Mais tu dois de si fortes sommes. Enfin, tant pis. »
Elle s'isola derrière une pile d'étoffes qui la cachait complètement de la caissière et de la vendeuse. Tandis qu'elle épinglait des étiquettes, la Griffoule s'approcha d'une allure prudente afin de lui offrir une caresse. D'un geste là, en baissant les yeux, elle l'écarta.
« Ne sommes-nous plus amis, Hélène ? Quoi de grave as-tu à me reprocher, toi ?»
Hélène, devant une aussi puérile inconscience, daigna avoir pitié.
« Tu m'as fait de la peine. »«
De la peine ? Je ne m'en doutais pas. Au travail, allons. »
Il revint à son bureau en soupirant de chagrin, car il se croyait méconnu, presque malheureux.